You talking to me?
Playtime's over, kid.
Are you ready?
I never play.
Si l'Amérique m'était comptée.
En mai 1985, un charmant petit monstre nous parlait de son écrivain favori.
Alors, François Sagan, je n'ai pas de confidence de vous là-dessus, mais il me semble que Scott Fitzgerald doit être un de vos écrivains américains préférés, me semble-t-il.
Oui, bien sûr.
Oui.
J'ai eu une telle passion pour Scott Fitzgerald que j'ai écrit une pièce qui a été un four complet, donc personne ne l'a connu, qui s'appelait « Il fait beau jour et nuit » et l'héroïne s'appelait Zelda.
Ce couple, essayez un peu de me le décrire. Comment le voyez-vous, ce couple?
Je les vois comme des gens qui avaient le goût du bonheur, qui avaient plein d'atouts pour être heureux, et quelque chose en eux de... Peut-être qu'ils n'avaient pas assez le goût du bonheur. Ils avaient tout pour être heureux et quelque chose en eux refusait à rien, un petit rien, quelque chose qui flottait dans l'air à l'époque, qui était une espèce de désespoir dans l'air. Je ne sais pas, c'était une période troublée en Amérique. Mais je crois que ce sont des gens qui s'aimaient profondément et passionnément.
Francis Scott Fitzgerald, oui, comme disait Pivot, était l'écrivain préf de François Sagan. Mais pas seulement. On sait que Salinger, Philip Ross ou Murakami ont été grandement influencés par l'œuvre et fascinés par la vie de Fitzgerald, l'un n'allant pas sans l'autre. Francis Scott Fitzgerald et Zelda Serre, couple mythique de la littérature, de l'Amérique et de la France. Parce que la vie des Fitzgerald se vit comme une chronique et se lit comme une légende. Si l'Amérique m'était comptée, Zelda et Scott Fitzgerald. Et s'ils avaient même inventé le couple People.
Hi guys.
Et pour commencer cette émission, plongeons dans l'ère du jazz si cher au Fitzgerald et écoutons Some of These Days des Washboard Rhythm Kings.
En 1925, ce fut son troisième roman, ce fut surtout un échec.
Et pourtant aujourd'hui, c'est sans doute le roman américain le plus connu au monde.
Gatsby, le magnifique, un mythe littéraire.
Signé Francis Scott Fitzgerald, un écrivain qui incarne à merveille les deux facettes du rêve américain.
L'euphorie et la mélancolie.
L'euphorie de la réussite, de la célébrité et l'euphorie de la conquête.
La mélancolie de l'inaccessible, la mélancolie des morsures de l'aube.
Avec Zelda, Scott forme le couple américain de la première moitié du XXe siècle.
Lui, le gamin désargenté de la côte Est, marié pour le meilleur et pour le pire à cette belle et riche héritière du Sud des États-Unis. Ainsi donc, si l'Amérique m'était comptée, aujourd'hui on irait à la rencontre de Zelda et Francis Scott Fitzgerald, deux héros de la mythologie du Nouveau Monde.
L'écrivain Liliane Kerjean a publié « Fitzgerald, le désenchanté », une excellente biographie du chef de file de la génération perdue, ou comment Francis Scott Fitzgerald a fait de sa vie une fiction et n'a vécu qu'en racontant des histoires.
Bonsoir, si vous êtes un rationaliste impénitent sans aucune indulgence pour le sentimentalisme des amoureux qui se susurrent des mots doux et idiots les soirs au clair de lune, si en plus vous êtes complètement allergique au snobisme de l'argent et des milliardaires américains au crayon et au Ritz, vous aurez du mal à apprécier ce livre que je recommande pourtant chaudement à tous les autres, à tous ceux qui ont de l'indulgence pour leurs coups de foudre passés ou présents. C'est Fragments du paradis de Francis Scott Fitzgerald aux éditions Bellefond.
Liliane Kerjean, bonjour.
Bonjour.
Francis Scott Fitzgerald est né le 24 septembre 1896 et il n'a pas 30 ans quand il écrit Gatsby le Magnifique, qui commence d'ailleurs avec quelque chose qui ressemble comme un souvenir d'enfance, mais bon, c'est romancé tout ça. Il dit « Quand j'étais plus jeune et plus vulnérable, mon père me donna un conseil que je n'ai jamais cessé de retourner dans ma tête depuis lors. » Liliane Kerjean, c'était quoi ce conseil ?
C'était « À chaque fois qu'il te prendra l'envie d'émettre des critiques sur quelqu'un, souviens-toi que tout un chacun ici-bas n'a pas joui des mêmes privilèges que toi. »
Waouh, ça c'est dur, un conseil d'un père, est-ce qu'on peut l'appliquer à Fitzgerald ?
Absolument, parce que d'une part son père compte beaucoup pour lui, et c'est son père qui l'introduit aux belles manières, à une façon d'être élégant. Et au fond, il sait un privilège aussi d'avoir un père tel que cet Irlandais, qui est un peu méprisé par sa femme parce qu'il n'a pas d'argent et qui est en faillite dans son métier. Donc il faut beaucoup de connivence père-fils dans la famille.
Le milieu familial de Francis Scott Fitzgerald, c'est quoi ? C'est la bonne bourgeoisie de Saint-Paul dans le Minnesota. Minnesota, on est un peu dans le nord, hein, la région des Grands Lacs.
Voilà.
C'est ça, c'est la bourgeoisie.
Ah, c'est la bourgeoisie. C'est, du côté de sa mère, ils sont riches. Par contre, du côté du père, c'est plutôt la 16 et donc... un peu de difficulté à se situer socialement.
Oui, Liliane Kerjean, vous parlez d'une enfance pieuse et romanesque. Ça veut dire quoi, ça ?
Ben, d'une part, il est élevé de manière un peu religieuse, parce qu'il y a toute l'ascendance irlandaise catholique, et puis aussi romanesque parce qu'il s'évade. Il faut dire que c'est un enfant de compensation. Il a eu deux petites filles mortes en bas âge avant lui, donc c'est un troisième enfant de substitution. C'est un fils. Après lui... Également mourra une petite fille dans son berceau qu'on lui montrera. Et enfin, il aura une sœur, Annabelle, dont il s'occupera en lui donnant des conseils assez humoristiques sur comment aborder un garçon, comment s'habiller, comment faire dans le monde.
Ouais, c'est le petit garçon espéré parce qu'il y a quand même une notion de lignée dans ces familles-là. Ce sont des grandes familles qui représentent un peu déjà l'Amérique. D'ailleurs, il y a des ascendants prestigieux.
Absolument. Donc, il y a des ascendants dans le monde de la politique, dans le monde de l'industrie et du commerce. Donc, le grand-père, par exemple, était une figure. Quand il meurt, toute la ville vient à son enterrement. On ferme les grilles des commerces. Donc, ils ont vraiment pignon sur rue. Ce qui explique que, parmi les privilèges de l'enfant, Scott Fitzgerald ait eu une éducation avec des maîtres à danser, avec des camarades qui arrivent avec des limousines, avec une livrée pour le chauffeur, avec le blason de la famille siglé sur la porte. Donc il est de plein pied avec cette grande richesse, bien qu'il n'y soit pas tout à fait. Et cet épisode va se reproduire à Princeton.
À Princeton, quand il va faire ses études, il va quitter son Minnesota pour aller à Princeton. Quand je vous disais que Fitzgerald, c'est l'Amérique, je pensais aussi à celui qui lui donne son prénom, Francis Scott. Alors vous dites que c'est une sorte de grand-oncle, c'est vrai qu'il y a des liens familiaux, mais c'est surtout un personnage important, c'est notre Rouget de l'île, j'allais dire,
oui.
Comparer, mais c'est le parolier de l'hymne national.
Donc c'est tout à la gloire aussi de la famille d'avoir un ancêtre aussi prestigieux qui compte dans l'histoire des États-Unis. Et Scott Fitzgerald, qui est un homme extrêmement loyal, d'une part voudra faire la guerre aux côtés des soldats américains. Il voudra également que ses successeurs soient toujours conscients de la valeur de l'Amérique, porte haut ses couleurs, que la littérature soit d'excellente qualité. Il va même imaginer à un moment initier une collection à prix abordable, de manière à ce que les grands auteurs soient lus de manière très large. Donc il a conscience que l'Amérique est à un tournant et qu'elle s'émancipe de l'Europe et qu'elle a des qualités à faire valoir.
Donc ce jeune homme commence ses études à Saint-Paul, on l'a dit, il quitte son Minnesota, il va faire ses études à Princeton, donc c'est, ça y est, il est sur la côte Est. Oui, mais il est déçu à Princeton, ça se passe pas si bien que ça là-bas pour lui.
Alors, il est déçu parce que il se rend compte qu'il n'est pas riche, c'est une de ses tantes qui lui paie ses études. Et il côtoie là les très riches, ceux qui font bamboche, ceux qui ont des voitures décapotables et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première déconvenue, il se situe. D'autre part, ses résultats scolaires sont très moyens. Et il a aussi une désillusion sentimentale. Donc sur le plan romanesque, il dit de manière déjà un peu cynique, on devrait très tôt apprendre qu'il ne faut pas se frotter aux jeunes filles très riches, puisqu'il est abandonné pour plus riche que lui. Et puis, il s'aperçoit aussi que tout ne va pas de soi dans la société, que les grands réseaux sont en train de se faire là.
En 1914, Scott faisait partie de l'équipe de son université, Princeton. Pour Scott, marquer un but sous le soleil de l'Amérique, devant les plus jolies filles de l'université qui criaient de joie, marquer un but, dis-je, c'était plus important que de devenir quelqu'un d'important. Pendant toute sa vie, être celui qu'on applaudit devant les dames, ça a toujours été le plus important pour Francis Scott Fitzgerald.
La Première Guerre mondiale, 1914, est lointaine pour les États-Unis. Il faut attendre 1917 pour que le pays s'engage. Et lui, Francis Scott Fitzgerald, s'engage aussi. Alors, il part pas en Europe. Il va dans le sud, à Montgomery. Ça le change aussi. Il est lieutenant là-bas.
Voilà. Alors, il n'arrive pas à partir en Europe parce que l'armistice sonne avant même que le bateau sur lequel il était supposé partir quitte New York. Et donc l'armée le fait bouger de camp en camp, dans le sud, au Texas, au Kentucky, en Géorgie et finalement dans l'Alabama. Et là, ça va être un moment décisif. Puisque, d'une part, il est très coquet, donc en uniforme avec ses étriers. Il demande le privilège de porter ses étriers sur ses bottes cirées. Et il va rencontrer une jeune personne au bal.
Qui est cette personne ?
Qui est Zelda.
Zelda.
Et Zelda, c'est la reine de l'Alabama, comme on la surnomme.
Elle est belle, il tombe amoureux, il est beau aussi,
oui.
C'est formidable. Et tous les deux repartent, quittent le sud, la guerre est finie, mais la guerre n'a pas vraiment eu lieu. Ils arrivent à New York, c'est le New York des années 20, le New York des années jungle. C'est une ville en pleine effervescence et ce couple devient une figure phare de cette ville. Comment ça se fait ? Quelles sont les étapes ?
Alors, ils se marient en 1920, ils sont pratiquement seuls à leur mariage, ce qui en dit long aussi sur la façon dont les familles voyaient l'affaire. Et immédiatement, ils vont dans l'excentrique. Et là, ils deviennent le point de mire de New York. Ils reçoivent beaucoup. Les gens arrivent dans leur suite à toute heure. Alors, ils sont habillés comme des dieux. Ils lancent des modes. Elles se coupent les cheveux. Ils s'habillent en même couleur. La vie à deux. Ils sont en knickers tous les deux, blancs. Enfin... Donc, tout le monde s'arrache une invitation, passe et repasse. Ils font la pluie et le beau temps des nouveautés.
Mais, à côté de cela, il écrit. Francis Scott Fitzgerald est déjà un auteur, je ne veux pas dire un auteur reconnu, mais enfin, qui s'est fait remarquer par quelques écrits, pas du roman encore, bien qu'il y ait L'envers du paradis en 1920, où il parle d'un étudiant de Princeton et on pense tout de suite à son expérience à lui. Il écrit beaucoup de nouvelles, il s'essaie au théâtre, enfin, il y a plein de choses.
Ah oui, il n'a pas cessé d'écrire depuis 1909. Et au fond, il est reconnu. À Princeton, il est reconnu comme une bonne plume. Non pas comme un très bon étudiant, mais comme une très bonne plume.
Donc il écrit. Ce sont des nouvelles.
C'est son dilemme, finalement. Il voudrait avoir du temps pour écrire une œuvre conséquente et construite. Et en même temps, comme il faut payer sans arrêt les achats très dispendieux de Zelda, et les chiens aussi, ils dépensent beaucoup, ils boivent beaucoup aussi. Donc tout ça, c'est de l'alcool de contrebande, les soirées, ça coûte cher,
oui,
l'hôtel, ça coûte cher. Et donc, il faut fournir. Donc, les bonnes feuilles paraissent dans les magazines de Smart Set ou bien Saturday Evening Post. Et d'ailleurs, les grands écrivains ont tous commencé dans les magazines. Et donc, ces nouvelles sont remarquées. Il en pose pas mal. Et donc, ça le fait vivre. Mais c'est du coup par coup, si bien qu'il n'a jamais le temps de se poser pour écrire un ouvrage d'importance.
3 collections de nouvelles. Un diamant gros comme le Ritz. La fêlure. Et les histoires de Pat Toby, qui sont l'histoire de la fin de sa vie, n'est pas de sa, un peu de sa déchéance à Hollywood.
Comment ça va, vieux frère? Je suis Gatsby.
D'ailleurs, en 1925 paraît Gatsby le Magnifique, qui est un succès, peut-être pas le succès qu'il attendait d'ailleurs en nombre de ventes.
Et il est très vigilant sur, avec Scribner, son éditeur, sur combien sont vendus. Il pensait d'abord l'envers du paradis avait été un succès qui lui avait permis de se faire connaître, de se lancer, de se marier, parce que jusque-là, Zelda disait pas d'argent, pas de Suisse. Mais Gatsby va quand même le faire connaître parce que les grands auteurs, T.S. Eliot, qui est quelqu'un d'extrêmement raide, Mencken, Willa Cather, Sinclair Lewis, Gertrude Stein, tout le monde arrive en disant c'est magnifique. Et Cocteau n'est pas le dernier en disant c'est un roman céleste.
C'est important, Cocteau, parce qu'il faut obligatoirement, quand on parle de Fitzgerald, arriver à Paris à un moment ou à un autre. Il lit le français dans le texte, donc il lit les nouveautés, Cocteau notamment, dans le texte. Et puis avec Zelda, il se rend à Paris sans cesse. Il y a une relation très particulière entre ce couple faste du New York des années folles et puis Paris.
Alors au départ, c'est un voyage assez bref en 21, où à Londres, ils sont déjà reçus par un auteur de renom, Goldsworthy, et la famille Churchill. Lady Spencer Churchill les reçoit, donc ils passent assez rapidement à Paris et c'est l'engouement, ils reviennent.
Les Fitzgerald adoraient Paris. Leur Paris, c'était un Paris un petit peu légendaire. Le Paris des grands restaurants, le Paris des grands bijoutiers, le Paris du luxe, le Paris de la gloire qui s'évanouit avec le petit matin quand on a un peu trop bu. Scott et Zelda Fitzgerald ont vécu dans un éblouissement au milieu d'un océan d'éloges et puis bientôt, bien vite, dans un océan de silence.
Et finalement, ils vont passer une dizaine d'années à Paris en faisant des allers-retours entre la Côte d'Azur et Paris, dans le cercle des exilés américains riches qui ont des villas sur la Côte d'Azur. Et leurs amis Murphy, lui est peintre et elle est une riche héritière, vont être des intermédiaires remarquables entre le monde des arts, des lettres, de la danse, puisque Zelda va s'intéresser plus tard à la danse. Et au fond aussi vers la Côte d'Azur, les Murphy sont en train de se construire à Antibes une superbe villa qu'ils appellent tout modestement Villa America. Et les Fitzgerald, eh bien, louent des villas somptueuses. Donc tout ça est un train de vie et quand même cher. Hein.
Un hôtel au milieu de la nuit, peut-être un endroit magique. Une souris qui trottine et qui s'arrête. Un radiateur qui siffle. Un rideau qui s'agite. Il y a quelque chose de paisible, de réconfortant même, de savoir que les gens que vous aimez sont endormis dans leur lit, où rien ne peut leur arriver.
En 1934 paraît Tendre et la nuit, justement, qui évoque cette vie sur la Riviera. Et la fréquentation de la communauté américaine en France permet à Fitzgerald de rencontrer d'autres auteurs, notamment Hemingway.
Et en particulier Hemingway, qu'il rencontre au Dingo Dingo Bar. Et donc, ils vont avoir une relation très proche. Et c'est Fitzgerald qui va l'encourager à écrire. Alors, les temps vont changer, ils vont devenir concurrents et le succès de Hemingway va grandir. Hemingway sera méchant avec Fitzgerald dans Les Neiges de Kilimanjaro, où il va le critiquer, donc Scott va réagir. Et puis, ils vont s'éloigner l'un de l'autre sans se fâcher pour de bon. Et Hemingway lui fera compliment de nouveau pour Tendre et la nuit. Donc, ils se suivent, ils se lisent.
Être un écrivain succès paraissait romantique et passionnant. On ne serait jamais aussi célèbre qu'une star de cinéma, mais la célébrité durerait probablement plus longtemps. On n'aurait jamais l'influence d'un homme à forte conviction politique ou religieuse, mais on serait certainement plus indépendant. Bien entendu, à l'intérieur même du métier, on était éternellement insatisfait. Mais pour ma part, je n'en aurais pas choisi d'autre.
La folie des années 20 s'arrête symboliquement avec le krach de 29.
Voilà.
Mais pour
ils sont en voyage à ce moment-là, ils entendent ça de manière un peu distante.
Oui, ils n'ont pas des investissements en bourse gigantesques, donc
ils n'ont pas d'investissement, non.
Et pourtant, paradoxalement, et ça n'a aucun rapport, ça marque dans la vie de Fitzgerald un changement aussi qui est lié à toute autre chose. Il y a l'alcool, sans doute, il y a la personnalité de Zelda. Ça, on en parlera tout à l'heure avec Colin, mais on sent que c'est un personnage très particulier. Et puis, il y a un autre aspect que je voudrais que vous évoquiez, Liliane Kerjean, c'est la peur du temps qui passe. Il écrit dans une lettre « Je n'aime pas les vieux ». C'est ça, il a peur de la vieillesse aussi.
Alors, ça lui sera épargné parce qu'il va mourir à 44 ans. Mais c'est effectivement ces bulles de champagne. Il y a des caricatures qui montrent le couple Zelda Scott, elle, dans une coupe de champagne avec ses jolies gambettes sur le bord. Alors, coiffée, bien sûr, à la garçonne, avec des rivières de perles. Et lui, à côté, tiré à quatre épingles. Donc, il faut sans arrêt créer l'événement.
À 20 ans, la gloire tout d'un coup, avec son premier roman, L'envers du paradis. À 30 ans, l'échec. Et pourtant, il vient d'écrire Gatsby le magnifique. À 40 ans, l'oubli. À Hollywood, il n'est plus qu'un scénariste dont on ne tourne pas les scénarios. En secret, il écrit encore un chef-d'œuvre, La Fêlure.
Francis Scott Fitzgerald décède en 1940, en décembre 1940. Il en est où de sa carrière? Il y a comme des déceptions, notamment par rapport au succès d'Hemingway. Et lui n'a peut-être pas eu le succès qu'il attendait. Il n'a peut-être pas écrit le roman majeur parce que Gatsby n'a pas encore eu un succès
tardif. Le succès qu'il a aujourd'hui.
Voilà. Il est dans quel état en 1940?
Il est déçu. Il essaie de se reconstruire grâce à des scénarios. La MGM l'a employé à Hollywood, mais Hollywood est une grande fabrique de scénarios qui emploie des gens comme Faulkner. C'est pas du tout un déshonneur d'aller écrire à Hollywood à l'époque. Et donc, il est seul puisque sa fille est entrée dans la superbe collège de Vassar, qui est le top.
Et c'est où ça, Vassar?
Alors, c'est sur la côte Est, donc il la voit assez rarement, mais il est content qu'elle fasse ses études-là. Elle fait des études littéraires, elle anime des clubs et il lui dit « Travaille, travaille, parce que moi je sais ce que c'est à Princeton, j'ai fait ce que tu fais. » Alors, réfléchis. Donc, finalement, à Hollywood, il est très exigeant pour les scénarios, donc il est trop bon et ça ne marche pas. Il est lâché, il a des problèmes de santé et donc il finit un peu pauvre et désenchanté, effectivement.
C'est terrible quand on a l'image de la gloire des années 20, de ce couple extraordinaire, de se dire que tout ça est parti en déliquescence et qui correspond plus ou moins, vous en faites allusion dans votre livre, Liliane Kerjean, mais au désenchantement du monde de ces années-là, les années 40, effectivement, on le sait bien, c'est le début d'une période très sombre.
Oui. Et donc, il a lui-même consigné ses déceptions dans La Fêlure, The Crack, et on voit bien qu'il réfléchit beaucoup à ce qu'il a fait de sa vie, son bilan, quel est aussi le bilan de l'Amérique. Il se situe toujours dans un contexte historique. Qu'est-ce qu'il a apporté, lui? Quelle pierre il a apporté dans l'édifice américain? C'est quelqu'un de fondamentalement sérieux et qui est pris pour un fêtard.
Il a une conscience de la postérité.
Il est déçu parce que ses livres se vendent moins au moment où il va donc mourir accidentellement, mais enfin il a des problèmes cardiaques sérieux. c'est pas certain. Il est très heureux de la réaction des grands de la littérature, de T.S. Eliot à Cocteau et les autres, mais il n'a pas d'assurance sur sa pérennité.
D'ailleurs, il n'est rentré dans la Pléiade chez nous.
Oui, quand, ce qui est quand, la consécration.
2012, bah oui, 2012, c'est incroyable. Enfin, il est décédé en 1940 et il y en a beaucoup qui sont rentrés et qui n'avaient peut-être pas le statut de figure de la littérature américaine qui était déjà dans la Pléiade bien avant lui. Pourquoi ? Pourquoi on a attendu autant ?
Pourquoi on a attendu autant ? Mais il était sans cesse réédité, retraduit. Le cinéma faisait beaucoup pour sa gloire aussi, puisqu'il y a eu par exemple 4 Gatsby. Si bien que... il a aussi l'estime d'écrivains majeurs qui reconnaissent avoir été influencés par son écriture, par exemple Philip Roth, Salinger. Donc, au fond, il a le parrainage des très grands, William Styron, Updike, si bien qu'il a marqué son temps, parce qu'il a fait évoluer la littérature par ses œuvres, mais aussi par les conseils qu'il donnait à la maison d'édition Scribner. Il a aussi contribué à lancer quelqu'un de majeur comme Hemingway. Et finalement, il est un maître de la nouvelle. Il a beaucoup écrit de nouvelles.
D'ailleurs, c'est impressionnant. Il y a quoi 4-5 romans avec Le Dernier Nabab qui était inachevé. Voilà. Mais en nouvelles.
En nouvelles, mais ce sont des gros recueils de nouvelles. Une pièce qui a été un four, qui a été traduite récemment en français, Le Légume.
Alors, Liliane Kerjean, pour terminer, moi je voulais prendre votre livre et prendre surtout la première phrase de votre livre, Fitzgerald, le désenchanté, et vous reposer la question que vous posez vous-même, qu'est-ce qui nous fascine tant chez Scott Fitzgerald ?
Qu'est-ce qui nous fascine ? Moi, c'est le style, c'est ce savoir écrire, cette limpidité, la finesse, l'élégance, l'évocation des nuits, des jardins. Par exemple, Gatsby est un livre remarquable sur... les correspondances entre les amants et la pluie, cette baie qui s'ouvre sur les jardins, les grandes demeures patriciennes qui se répondent, la lumière, cette idée du quai et de la lumière, c'est absolument magnifique. La dernière page de Gatsby est un pur chef-d'œuvre puisque c'est l'évocation des premiers émigrants qui arrivent du côté de Manhattan et qui aperçoivent une sorte de terre promise, le sein vert de l'Amérique, et qui ont tous leurs espoirs, finalement, dans leur petit bagage. Et l'Amérique, pour eux, c'est la terre qui va les sauver.
C'est ainsi que nous avançons, esquifs luttant contre le courant, refoulés dans le passé, sans cesse. C'est les derniers mots de Gatsby.
Et c'est aussi les mots qui sont écrits sur les deux tombes des époux Fitzgerald.
Merci beaucoup Liliane Kerjean.
Merci à vous.
Le doute, tout comme toi. Ce matin. tu brilles déjà fort sur ma peau. C'est torse, c'est toi, c'est torse, c'est toi. Pourrais-tu m'aimer? Ça, j'en doute, ça, j'en doute. Quand tu ne prends ce que tu veux de moi, quand tu prends, quand tu n'aimes ce que tu veux de moi, quand tu n'aimes, quand tu ne veux qu'une partie de moi. Pourrais-tu m'aimer? Ça, j'en doute, ça, j'en doute. Quand tu ne prends ce que tu veux de moi, quand tu prends, quand tu n'aimes ce que tu veux de moi, quand tu m'aimes, quand que je disparais dans tes bras.
Christine and the Queens, je disparais dans tes bras.
La femme de Francis Scott Fitzgerald s'appelait Zelda Serre. Scott disait d'elle, j'ai épousé l'héroïne de mes nouvelles. Il disait aussi, toute vie est un processus de démolition. Alors entre passion, feu et larmes, le couple Fitzgerald s'est usé jusqu'au bout. Leur monde s'est craquelé et effrité jusqu'à partir en fumée. Mais qu'importe, chez les Fitzgerald, tout est question de destinée. Et il était écrit que Zelda Sayre devait rencontrer Francis Scott, parce qu'elle était sa muse et sa croix.
Pour le prix Goncourt maintenant, c'est Olivier Adam qui faisait figure de favori avec À l'abri de rien. Et c'est finalement Gilles Leroy qui a été choisi au 14e tour de scrutin. Gilles Leroy, 48 ans, auteur d'une dizaine de romans et écrits divers. Ça s'appelle Alabama Song et cela raconte à la première personne le destin tragique de Zelda, l'épouse de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald.
Gilles Leroy, bonjour.
Bonjour.
Alors, la première fois que j'ai entendu le prénom Zelda, Gilles Leroy, j'étais enfant au milieu des années 80. C'était un jeu vidéo, La Légende de Zelda. Un jeu vidéo devenu culte depuis. Et Zelda, c'était une princesse dans le jeu vidéo. Mais c'est bien plus tard que j'ai appris que ce choix de Zelda dans le jeu vidéo, c'était un hommage à une Zelda qui avait existé pour de vrai. Zelda Fitzgerald, évidemment. Alors juste en quelques mots et comme une plaisanterie pour commencer, est-ce que vous diriez, vous, que Zelda Fitzgerald était une princesse un peu iconoclaste du XXe siècle ?
Ah ben c'était tout à fait une princesse, c'est bien vu de la part du jeu vidéo, parce que c'est une jeune fille de l'aristocratie d'Alabama, c'était gros planteur la famille de Zelda, ils ont construit quasiment la ville de Montgomery, qui est aujourd'hui la capitale de l'Alabama, et elle grandit comme ça dans une cage dorée, si on peut dire. Je parle de cage parce qu'elle voudra vraiment s'en échapper, c'est tout de même tout le but de sa jeunesse et de sa vie entière. Mais c'est vrai qu'elle a un côté princesse avec beaucoup de caprices, avec aussi un caractère bien trempé et puis une certaine beauté aussi qui fait que tous les gars en sont assez raides.
Alors elle s'appelle Zelda Serre, on dit Zelda Zer Serge.
Alors ça j'ai jamais su. Ouais. J'ai essayé de comprendre
ça, c'est
justement
à
Montgomery.
S-A-Y-R-E.
Mais je pense qu'on dit Zer, en fait.
Zer, hein.
Parce que dans le texte qui s'appelle La Ballade du Rossignol Roulant, qui est une sorte d'autofiction, Scott Fitzgerald dit qu'elle s'appelle Zaïre, comme le nom du pays.
Zaïre.
Il met un Z, en fait.
Oui, d'accord.
Et un I très mal à la place du Y. Donc je pense que ça se disait Zer et non pas Serre.
Alors Zelda, elle est née donc en Alabama en juillet 1900, si je ne dis pas de bêtises. Vous parliez d'aristocratie financière, aristocratie aussi intellectuelle et culturelle. Elle a un grand-oncle, un grand-père qui est sénateur. Son père est juge à la Cour suprême d'Alabama. En effet, c'est une cage dorée. Juste ce prénom, Zelda, ça vient d'où ? C'est une femme gitane dans la littérature américaine, me semble-t-il.
Oui, et puis alors c'est très annonciateur ce prénom. En fait, sa mère, Minnie, qui est une actrice et poétesse rentrée, on va dire, qui donc projette beaucoup aussi sur sa fille. Minnie a lu un roman au 19e siècle qui s'appelait La Salamandre. Et l'héroïne de la Salamandre est une jeune gitane qui danse. C'est très important parce que Zelda dansera. Et ce qui m'a fasciné, moi, c'est que la Salamandre, vous savez, c'est cet animal fabuleux, enfin réel, mais dans les fables, il est censé traverser le feu sans se brûler. Et le feu est un signe qui hante toute la vie de Zelda qui finira brûlé dans un incendie. Mais des incendies, il y en a tout au long de sa vie, volontaire ou non d'ailleurs. Et en ça, c'est assez fascinant ce prénom, dès le départ. Ouais.
Et déjà le prénom d'une femme libre, hein. Une femme gitane, une femme libre évidemment. Alors durant toute son adolescence, elle ne passe pas inaperçue, Zelda. Elle aime fréquenter les garçons, elle aime déjà boire un peu d'alcool, fumer des cigarettes. Alors elle est effectivement au centre, j'ai envie de dire presque des ragots de Montgomery. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas inaperçue du tout, hein, Zelda Zahir, quand elle est môme.
Ah mais pas du tout, et puis elle cherche surtout pas à s'effacer, au contraire, c'est-à-dire qu'elle le fait, elle est scandaleuse pour les bonnes mœurs puritaines du sud américain. Et puis c'est un garçon manqué, en plus elle a un côté très physique, c'est-à-dire qu'elle va dans les carrières où les adolescents se baignaient, et elle va tout en haut de la falaise et elle plonge. Là où les garçons n'osaient même pas plonger, elle plonge, quoi. Et elle est comme ça, dans une sorte de course, de compétition avec les garçons, laquelle compétition d'ailleurs se retrouvera, en un certain sens, avec Scott, en fait.
En 1918, Gilles Leroy, à Montgomery, c'est une ville de garnison. Il y a des militaires qui sont là. Nous sommes à la toute fin de la Première Guerre mondiale. On forme des soldats pour aller se battre. Hein. Et il y a un jeune officier, effectivement, qui est là.
Un beau lieutenant
qui s'appelle Francis Scott Fitzgerald. Il se rencontre donc à Montgomery. Mais dès le départ, Gilles Leroy, dès le départ, leur relation est très compliquée, faite déjà d'admiration et presque de haine au départ.
Bah là, je vais utiliser un gros lieu commun, mais c'est vraiment le feu et la glace. Scott, il a ce côté glacial et donc désirable pour Zelda, parce que à l'inverse de tous ces gars du sud, c'est un garçon très très bien tenu, quoi, qui est blond, qui a un teint très pâle,
très soigné,
qui est soigné, qui a comme ça cette sorte d'élégance qu'on prête au nord, dans le sud. et donc oui, ils sont assez contradictoires, assez opposés, et en même temps, ils s'attirent. Comme souvent les opposés, quoi. Il y a une attirance immédiate quand même.
À ce propos, pour illustrer ce que vous venez de dire, vous racontez quelque chose dans Alabama Song, un prix Goncourt 2007, un magnifique roman que j'encourage nos auditeurs à lire. Vous racontez une anecdote assez symptomatique de leur relation. C'est l'histoire des 18 ans et de la calèche. C'est-à-dire que pour ses 18 ans, Francis Scott lui envoie une calèche. Et elle est à la fois séduite, elle est charmée, parce qu'évidemment, une jeune femme à qui on envoie une calèche est à la fois, bah oui, c'est un conte de fées. Et en même temps, ça l'agace. Elle aimerait bien virer le cocher, prendre les chevaux elle-même. Elle se dit déjà, je suis son jouet, alors je suis charmée, mais en même temps, qu'est-ce qui m'exaspère? Et on est au tout début, on est en 1918.
Elle est ambiguë avec les garçons, et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'elle n'a pas que Scott dans sa vie sur son carnet de bal. Elle a d'autres garçons, hein, qui sont des soupirants et des courtisans quelque part plus appréciés de sa famille, parce que Scott, il a pas un copec, c'est vraiment un gamin déclassé, ça représente rien pour les airs, c'est vraiment rien du tout, quoi. Tandis que elle est courtisée par un garçon de Montgomery qui finira quand même le numéro 3 des États-Unis, le housekeeper. Il représente le Sénat, donc il est très important. Et c'était à ça qu'elle était destinée quand même, si elle n'avait pas eu ce petit grain d'excentricité, puis de folie peut-être aussi, oui.
Et ils finissent par se marier en 1920, Gilles Leroy.
Oui, ça n'a pas été sans difficulté quand même, parce que on raconte qu'elle dit, et moi je le lui fais dire sans hésiter dans le roman, qu'elle aurait mis le jeune Scott au défi de revenir donc riche et célèbre, parce qu'il doit... La guerre s'arrêtant en 18, Scott, qui est très déçu d'ailleurs de pas être parti au front, c'est son côté stendhalien, il aurait bien aimé aller au combat. Donc il gagne New York pour essayer de réussir en tant qu'écrivain. D'abord, il fait beaucoup de publicité, et puis ses nouvelles ne marchent pas très bien, il n'arrive pas à les caser. Il dit à un moment qu'il pourrait punaiser sa chambre avec toutes les lettres de refus d'éditeur, enfin recouvrir les murs de sa chambre. Mais voilà, il y a ce premier roman qui arrive et qui est un succès. Donc il revient effectivement à Montgomery, célèbre, et puis très vite riche quand même, oui.
C'est L'Envers du Paradis, je crois, le premier roman, hein, qui
oui,
cartonne.
C'est ça.
Scott Fitzgerald est lieutenant dans l'armée américaine et il rêve de devenir le grand écrivain de son temps. Elle, Zelda, fille de l'Alabama, le rencontre au moment où son destin va se construire. Le premier roman de Scott, L'Envers du Paradis, va les propulser sur le devant de la scène. Ils vont former un couple people, comme on dirait aujourd'hui, et comme le dit Zelda, la célébrité, ils l'ont inventée et ils en ont même fait commerce.
Et là, très vite, hein, Gilles, ils vont devenir, et on a peut-être oublié à quel point, un authentique couple de stars de New York des années 20. C'est-à-dire que, de retour à New York, ils s'installent à New York et ils sont très très en vue, Zelda et Francis Scott Fitzgerald. C'est des vraies stars mondaines.
Ben, ils ont inventé la célébrité telle qu'on la vit encore aujourd'hui dans nos journaux, sur nos écrans de télé. C'est vraiment eux qui ont inventé cette façon de faire. Et je pense que Zelda était pour beaucoup dans cette prise de conscience que ce qu'on était aussi important que ce qu'on écrivait ou ce qu'on peignait. Enfin, bon, que ce qu'on était, il fallait le vendre aussi en fait. Et ça, Zelda avait ce sens-là. Et c'est vrai que la chose très particulière et qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui peut-être, c'est que ils étaient devenus une sorte de label de qualité et surtout de jeunesse. Ils incarnaient la jeunesse des États-Unis et au frontispice des cinémas et surtout des théâtres, on mettait leurs deux têtes à coller comme ça, comme dans un chœur. Ils n'avaient rien à voir avec la pièce représentée ou le film, hein, c'était peu important. Ils étaient là pour labelliser en quelque sorte la qualité du spectacle et surtout sa jeunesse.
Et d'ailleurs, à cette époque-là, elle n'a pas encore écrit, Zelda. Elle est célèbre parce qu'elle est la femme et la muse de l'écrivain qui cartonne. Et elle est aussi célèbre sans doute parce qu'elle incarne déjà une image de la femme iconoclaste. Scott Fitzgerald dit d'elle, c'est la première garçonne américaine. C'est vrai qu'elle est aussi connue pour ça. C'est que très vite, elle affiche une indépendance, une flamboyance qui n'est pas à la coutume à ce moment-là aux États-Unis pour la femme.
Ben, elle fait cette chose qui était incroyable dans les années avant les années 20, c'est qui est de se couper les cheveux.
Oui.
Déjà. Et puis elle n'a pas de grande pudeur non plus physique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en fin de nuit dans les clubs new-yorkais dansait très facilement pas nu mais enfin on va dire débraillé sur les tables. Enfin bon voilà, elle avait ce côté-là très à l'aise, oui.
Ensuite, Gilles Leroy, ils vont se mettre à voyager et notamment en Europe et surtout à Paris au milieu des années 20. Et c'est là, on va dire, que commencent un peu les ennuis, pour deux raisons principales. L'alcool, Scott boit beaucoup, et la jalousie réciproque, et qui prend encore un peu plus d'ampleur chez Francis Scott lorsqu'il apprend qu'elle a eu une aventure avec un jeune et très beau pilote français, il s'appelle Édouard Jauzan, je crois, hein, c'est bien ça. Là, il est fou furieux après elle, Francis Scott, à Paris.
Oui, c'est-à-dire qu'entre l'arrivée à Paris et l'épisode d'Édouard Jauzan, ça se passe dans le midi, là, c'est plus à Paris, il y a eu quand même une lente descente aux enfers. Zelda n'a peut-être pas été très claire, et pourtant Dieu sait s'ils se sont écrits le temps que Scott était à New York et qu'ils étaient fiancés, n'avaient que les lettres pour communiquer. Il a peut-être pas compris ou elle l'a peut-être pas assez dit qu'elle voulait elle-même écrire. Et c'est tout le malentendu du couple qui va vite plonger dans un enfer de rivalité, en fait, avec, bah, c'est un grand classique, hein, si dans un couple l'un se réalise et l'autre non, ça se passe mal. C'est vrai que l'alcool n'aide pas, et puis en plus, il y a cette chose qui arrive chez Zelda, qui est ces crises qui se répètent, qui vont finir quand même par un internement en Suisse. Voilà, ça commence comme un conte de fées, mais le conte de fées dure vraiment un an. Hein,
c'est très court,
un
en
an
effet.
Et demi à tout casser. Et après, c'est l'enfer, c'est une descente aux enfers de 15 ans. Quoi.
Avant l'internement, il y a quand même une envie de rivaliser dans la création artistique. C'est-à-dire qu'elle se met à vouloir devenir danseuse de ballet au milieu des années 20 de manière complètement obsessionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus que ça pendant des heures jusqu'à l'épuisement. D'ailleurs, ça n'a pas dû arranger sa santé physique ni mentale.
Mais ça devient
une obsession. Elle veut devenir danseuse, Zelda.
Mais elle avait dansé quand elle était enfant. Sa mère la faisait danser. Elle avait donné des représentations. Mais vous imaginez le genre de spectacle de patronage de Montgomery où la fille la plus riche de la ville venait danser. Donc forcément, on applaudissait. Je ne sais pas si elle dansait bien ou pas à l'époque, mais forcément, on devait la persuader qu'elle était une très bonne danseuse. Et c'est vrai que dans son désarroi pour exister, je crois, il y a ce moment où elle comprend que Scott ne veut pas qu'elle écrive, parce que c'est quand même clairement dit, hein, c'est clairement exprimé de la part de Scott. Et donc, il y a la danse. Et c'est à l'époque, le Paris de cette époque, c'est le Paris assez génial, assez effervescent des années 20. Et il y a les fameux danseurs russes qui sont à Paris, et elle prend comme professeur une danseuse russe avec qui, c'est vrai, elle va vivre un enfer, mais qui est payant parce que au bout de 2 ans de cet entraînement fou, je crois qu'elle est 8-9 heures par jour à la barre, quoi. C'est il y a des moments où elle sort de là, elle va rejoindre Scott à la coupole ou au dôme et tout, et elle a les pieds en sang tellement elle a fait de pointe, tellement elle est blessée.
Et donc du coup blessée, épuisée, malmenée, hein, en 1930, elle est internée pour des troubles psychiatriques, oui. Troubles mentaux. On évoque une schizophrénie, apparemment c'est plus des troubles bipolaires. En tous les cas, il y a un diagnostic qui sort, c'est en gros une femme fragile, condamnée à la folie par des éléments exogènes. Ça c'est important parce que, voilà, c'est quoi les éléments exogènes? C'est sans doute Francis Scott principalement.
Oui, c'est un gros élément exogène.
Vous avez raison, on en rit, mais c'est en réalité quand même.
C'est absolument triste, vous savez, mais c'est pas... Hélas, il n'y a pas que Zelda dans ce début du XXe siècle à subir ça. Elle a plus quand même des travers de maniaco-dépression que de vraie schizophrénie, même si c'est un peu cousin, tout ça, un peu voisin. Mais bon, c'est vrai que le premier internement est très dur, puisque ça suit une violente dispute avec Scott qui a lieu, je crois, au Georges V. Et là, Scott n'en peut plus. Apparemment, elle a dépassé les bornes, mais dans son délire, elle lui reproche des choses qu'elle croit sincèrement. Elle le soupçonne, par exemple, d'avoir une relation homosexuelle refoulée avec Hemingway, enfin, qu'il y a un attachement entre les deux qu'elle trouve très très suspect, très louche. Et voilà, donc il y a eu tout ce cauchemar, il n'est pas venu d'un coup, quoi. Ça s'est lentement fait, et donc Scott prend la décision de l'emmener en Suisse. Dans cette clinique qui s'appelle les Rives de Prangin, près de Lausanne, et qui est tristement célèbre parce que toutes les femmes qui étaient là-bas étaient donc diagnostiquées schizophrènes, mais il y avait que du beau monde, il y avait que des personnes, des femmes célèbres ou des femmes ou des filles de gens célèbres.
Alors ils vont ensuite rentrer aux États-Unis, et là très vite elle va à nouveau être internée dans le Maryland, et là elle fait preuve de créativité artistique parce qu'elle va peindre notamment, ouais. Mais surtout elle va écrire. Un premier roman, Accordez-moi cette valse, roman autobiographique qui rend Francis Scott fou furieux. Pourquoi est-il très en colère, au-delà du fait qu'elle écrive et qu'il ne voulait pas qu'elle écrive? Ce n'est pas la seule raison. Pourquoi est-il en colère, Francis Scott, après ce roman?
Alors la première chose qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas qu'elle écrive parce que ça aggrave son désordre mental. Mais il disait aussi que la danse aggravait son désordre mental. Donc en fait, tout aggravait. Donc elle n'avait pas d'issue, en fait, Zelda, à part qu'elle ne pouvait pas être une épouse et une mère de famille. C'était pas une grande mère de famille, il faut bien le dire. Elle n'est pas vraiment occupée de leur fille. Mais oui, c'est vrai que lorsqu'elle est internée là-bas, elle écrit ce roman, Accordez-moi cette valse, qui raconte en fait sa liaison avec l'aviateur français Édouard Josan, qui n'a pas duré longtemps, mais qui, le peu de semaines qu'elle a duré, l'a évidemment marqué, puisque c'était alors qu'elle vivait un enfer dans son couple avec Scott. Elle a eu l'impression peut-être de respirer à ce moment-là, même si ça finit évidemment mal. Elle écrit d'une sorte de furie, je pense, pendant 6 semaines. En 6 semaines, elle écrit ce roman qu'elle envoie à Scribner, qui est l'éditeur de Scott, lequel Scribner accepte le roman. Et c'est un peu vache, d'ailleurs, de la part de Scribner, parce qu'il sait très bien que Scott ne veut pas qu'elle écrive. Scott l'avait déjà empêché de publier les journaux intimes de Zelda. Donc bon, c'est une vieille histoire, hein. Et là, Scribner, bon, se dit, j'ai un coup peut-être sous la main. Il publie le texte. Et bien sûr que Scott devient fou de rage, parce que ce que Zelda ne savait pas, et peut-être même pas Scribner, c'est que lui-même était en train d'écrire sur cette aventure de Zelda avec l'aviateur, mais bien sûr d'un point de vue différent. Il était en train de mettre ça en scène pour ce qui devait être son grand roman Tendre et la nuit.
Tendre et la nuit, voilà.
Tendre exactement. Et la nuit, dont il espérait arriver à la hauteur de Proust ou de Joyce, quoi. Il voyait pas moins que ça. Et hélas, en plus, ça ne sera pas le cas. Mais voilà, donc pour lui, non seulement elle a enfreint l'arrêt qui était qu'elle ne devait pas écrire, mais en plus, elle lui a volé son sujet. C'est dramatique parce que ça va être le divorce.
Vous en avez touché un mot rapidement, on ne l'a pas dit. Ils ont eu, en effet, une fille en 1921, oui, Frances. Ils aiment leur fille, mais c'est des parents absents. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui va grandir sans parents, hein, élevée par des nurses. Parce que c'est la fête, c'est l'alcool, c'est Paris. Et oui. C'est vrai que c'est une enfant qui est un petit peu abandonnée, malgré eux, j'ai envie de dire. Mais
Oui, non, ça vraiment, Francis, qui était surnommé Scotty, en fait, elle est restée dans l'histoire sous le prénom le sobriquet de Scotty. Ce qui en dit long, d'ailleurs, sur l'appropriation du père. Scotty était vraiment très, très lié à son père. Et avec sa mère, c'était beaucoup plus compliqué. Oui, mais bon, c'est vrai qu'elle a grandi toute seule, quoi, toute seule.
La décennie des années 30 hein, pour Zelda est très chaotique, hein, c'est ce que vous évoquiez là à l'instant. Et ça va se terminer par la mort de Francis Scott en 1940. Et elle le vit encore une fois là comme une trahison, c'est-à-dire que finalement elle lui en veut de lui survivre et il la laisse seule. Et elle doit se dire au fond d'elle, mais c'est pas possible, j'aurais au moins aimé partir avant lui sans doute, non? Parce que finalement c'est elle qui souffre de la mort de Francis Scott.
Ben, c'est ce que j'imagine, en tout cas, dans Alabama Song, dans mon roman, c'est ce que j'imaginais, quoi, que elle retourne à Montgomery dans la ville, donc, où elle est née, qu'elle n'aimait pas. Et là, elle va vivoter dans une sorte de baraque, une dépendance de la maison de ses parents. Enfin, c'est un énorme échec, ce retour à Montgomery. Et là, pour survivre, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle va peindre, parce qu'elle a un petit talent de peintre, elle va peindre des choses, mais parfois des tableaux, mais beaucoup de choses alimentaires, quoi, pour les voisins, les voisines. Les dernières photos de Zelda, qui a été une des plus belles femmes de sa génération, franchement, ça fait de la peine, quoi. Elle est habillée comme un sac et elle a plus de visage tellement elle est ravagée par la souffrance et la maladie et mentale
elle,
aussi.
Et elle va mourir le 10 mars 1948 dans l'incendie de l'hôpital psychiatrique dans lequel elle est internée, dans une ville qui s'appelle Asheville,
la ville des cendres
en français. Ouais. Destin tragique et ultra romanesque en même temps.
C'est du nanan pour un romancier, c'est du miel. Un destin qui est autant porté, agi par des signes, en l'occurrence par le feu, quoi. Jusqu'à la fin, c'est très fascinant. Mais il faut quand même dire qu'elle allait beaucoup mieux, bizarrement, à la fin de sa vie, et qu'elle se soignait assez bien. Enfin, curieusement, elle n'était pas si suicidaire. Scott était vraiment quelqu'un de suicidaire. Zelda, c'est plus complexe. Elle n'est pas si suicidaire parce qu'en fait, elle se relève toujours. Un jour, elle met le feu dans l'atelier où elle peint. Ben, elle arrive à échapper à l'incendie. Enfin, cet incendie-là, elle échappe, quoi. Mais le dernier, elle ne pouvait pas parce qu'elle était enfermée dans l'aile psychiatrique donc de l'hôpital.
C'était la nuit et les patients étaient bouclés dans leur cellule.
Mais elle y était allée, elle n'était pas vraiment internée parce qu'elle y est allée de son plein gré. C'est-à-dire que quand elle sentait que ça déraillait dans sa tête, que ça n'allait plus très bien, d'elle-même, elle téléphonait à cet hôpital où elle était suivie et elle prenait sa valise et elle retournait en Caroline du Nord pour y rester pour une cure de 3 semaines ou d'un mois.
Gilles Leroy, je vous remercie infiniment et j'insiste, j'encourage tous nos auditeurs à se précipiter sur Alabama Song, votre roman prix Goncourt 2007. Ça se trouve en poche maintenant, ça vaut 3 fois rien. Donc achetez ce livre de Gilles Leroy consacré à une biographie romancée en tous les cas de Zelda Fitzgerald. Merci beaucoup Gilles Leroy.
Merci à vous.
À bientôt, salut.
Tu rêvais à Chopin ou à Franz Liszt, dans un grand salon de l'hôtel Ritz. Tu écrivais les mots sur un bloc-notes. Tu ressemblais à la Zelda de Scott. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin.
Scott et Zelda, glamour jusque dans la voix d'Yves Simon. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Alors merci à notre réal Marco Mutel, assisté aujourd'hui de Florent Beauvallet.
Et puis il ne faut pas oublier Joy Raffin.
Joy Raffin, la voix narrative de cette émission.
Merci Joy, à la semaine prochaine.
Bye folks and see you next week.